voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans son ouvrage « Les bestiaires », Henri de Monterland, élu à l'Académie française en 1960, confesse sans détour sa fascination pour la tauromachie. L'édition originale des bestiaires est parue en mai 1926, d'abord chez Mornay puis chez Grasset. L'édition de 1929 dans la bibliothèque reliée de Plon comporte en ouverture une lettre adressée par l'auteur au président de la République française, Gaston Doumergue, qui occupa cette fonction de 1924 à 1931. Et si la corrida a de nos jours encore ses pour, fervent passionné, et ses contre, non moins fervent acharné, et que l'on approuve ou non le combat taurin, la lecture de cette lettre permet de comprendre bien des choses, jugez-en.
Président, c'est à vous que nous devons les courses de taureaux avec mise à mort dans le midi de la France. Bien qu'elles fussent entrées depuis un demi-siècle dans les traditions du peuple méridional, depuis l'origine elles lui appartenaient par les profondeurs, une commission parlementaire avait été nommée en 1900 pour statuer sur elles. Seul, contre la commission entière, vous êtes parvenu à faire triompher la foi. Je me plais dans cette parole que vous dites à vos adversaires et qui a l'accent triste de Sénèque. On comprend que les hommes aient peu d'amis quand les animaux en ont tant. Peut-être vous souveniez-vous encore d'une autre phrase. Les combats de taureaux n'ont pas peu contribué à maintenir la vigueur chez la nation espagnole. Mais sans doute Jean-Jacques Rousseau, qui en est l'auteur dans le gouvernement de la Pologne, est-il lui aussi une brute inhumaine et un suppôt de la régression? Vous êtes né et vous avez été nourri dans la religion du taureau. Anime, la violente, cette Rome des Gaules, la cathédrale, l'arc d'Auguste, le cirque où on luttait contre les cornus du temps de Suétone, portent sculptée dans leur pierre la bête magique. J'ai vu 20 000 hommes aux arènes acclamer le soleil se dévêtant d'une nuée. Leurs entrailles, sinon leur esprit, savaient que depuis 30 siècles, elles adoraient le soleil et le taureau qui est un signe solaire. Dans le midi taurin, la passion des taureaux a des racines plus profondes qu'en Espagne même. Pour avoir dit cela, président, qui est si juste, bien que si surprenant pour les profanes, il faut avoir mesuré en soi cet amour. Dans votre bureau de l'Élysée, entre une bibliothèque et un jardin, qu'il serait charmant de causer taureau, et rien que cela, grand Dieu. C'est vous qui me le raconteriez, tout petit garçon, quand votre père vous emmenait à la course du village. Il avait la coquetterie de passer, la course déjà en train, le plan où le taureau était lâché. Il vous tenait fortement le poignet tout de même, vous étiez bien content que la bête fût de l'autre côté. Quelques années plus tard, au cours d'une de ces chevauchées où les gardiens de Camargue arrivent au galop dans le village, entourant le troupeau qui va donner la course, un jour, vous avez été renversé par un des taureaux. Et puis, à peine relevé, vous vous êtes mis à sa poursuite avec vos petits camarades. Deux députés français, de passage à Cordoue, au moment de l'enterrement du grand Lagartigeau, envoyèrent une magnifique couronne. Elle portait votre nom et celui de M. Pams, un catalan. Et vous étiez ministre. Quant à Aigues-Vives, pendant une course libre, vous êtes descendu dans la piste. Même vous avez été, un instant, chargé par le fauve. Dans la façade de l'église de Caveyrac, un autel taurobolique rappelle un taurobol donné à Nîmes au IIIe siècle en l'honneur de l'empereur. En votre honneur, président, combien je voudrais... Mais non, non, ces pages ne vous seront pas dédiées. Elles vous gêneraient. Pire, peut-être. De nombreux humanitaires se vantent d'avoir tiré des coups de revolver sur les toreros venus donner une petite course aux environs de Paris il y a quelque 30 ans. La bonté est comme beaucoup de produits. La vraie guérit, les contrefaçons peuvent tuer. Je frémis à l'idée de déchaîner sur vous une terreur rose. Laissez-moi donc l'offrir, ce livre, au peuple méridional, à ceux surtout du Languedoc et de Provence qui honorent leurs dieux et leurs fleuves avec le même nom. C'est un des frères catalans, célébré par Mistral, qui élève pour eux la libation dans une nouvelle coupe. Un riton de sang noir en forme de tête de taureau.
Les bestiaires. Dans ce roman, le héros s'appelle Alban de Bricoul, jeune garçon sous lequel il n'est pas interdit de discerner un autoportrait de Monterland adolescent. Alban a reçu pour sa première communion un exemplaire de Quo Vadis. Depuis ce temps, peut-on lire dès les toutes premières lignes du roman, Alban était romain. Il avait sauté les pages consacrées à l'apôtre Pierre. Le mot « arène » avait sur lui un pouvoir électrique. Alban assiste donc à des courses dans le sud de la France, le pays taurin, puis descend jusqu'à Madrid. À Hendaye, il entend la langue espagnole comme la voix de la femme aimée. À 15 ans, il part pour l'Andalousie prendre des cours de tauromachie et affronter le taureau. La cause est entendue pour Monterland, lequel, rappelons-le, était originaire de Catalogne par sa famille et il avait été un héros de la Grande Guerre, blessé et décoré. Pour le comprendre et pour apprécier ses choix de vie, il convient de lire ou de relire Les Bestiaires. Monterland était un aficionado. Ses lettres et la presse de l'époque en témoignent. Un journal, en date du 7 novembre 1925, rapporte qu'en travaillant à la cape, un taureau dans un élevage voisin d'Albacete en Espagne, il avait reçu dans les omoplates un coup de corne de 7 cm de longueur et il fut soigné à Valence, il avait 30 ans, il venait juste d'achever à Séville la dernière ligne des bestiaires. Un paragraphe au début du roman permet à Monterland de dénoncer les positions de ceux qui refusent aux autres la liberté d'avoir des goûts différents des leurs.
Avec amusement, les amis eussent vu le jeune homme jouer au pari mutuel. Avec complaisance, courir les filles. Mais les taureaux n'étaient pas reçus par les gens qui, à l'heure du fumoir, portent des jugements sur la façon de vivre des autres et s'irritent qu'ils osent avoir des goûts qu'eux n'ont pas. Ceux qui savaient qu'Alban avait participé à de petites courses d'amateurs étaient particulièrement sévères. Tuer un cerf, un sanglier, un lièvre, un pigeon était exploit de gentilhomme et qu'on n'oublie pas quand on fait l'inventaire de ce qu'apporte un jeune crétin à marier. Mais tuer un taurillon sentait le boucher. À quelques minutes d'intervalle, les mêmes personnes traitent Alban de butor et de névrosé. Aimer les taureaux prouvait tantôt qu'on avait trop de sang, une petite brute, tantôt qu'on avait le sang pauvre, ses excitations morbides. Alban était un sauvage, un primitif, et en même temps une pâle fleur de décadence. D'autres, bedaine tremblotante, appelaient ces jeux pleins de risques des pitroiries. D'autres faisaient la moue, indiquaient les goûts qu'Alban aurait dû avoir. Les taureaux, ce n'est pas chic. Pourquoi, par exemple, ne montent-ils pas en course ? Dans cette même croyance que vos goûts doivent vous être imposés du dehors, on se cassait la tête à chercher de qui ils pouvaient tenir ceci. Et ne trouvant pas, quelques-uns opinaient que c'était simplement un genre.
Au chapitre 3, l'auteur rappelle la mythologie et le culte de Mitra qui fondent la culture et l'on peut même dire la religion du taureau.
Mitra nouait avec le soleil une amitié merveilleuse, fortifiée d'une alliance solennelle. Il était nommé l'ami. Puis, avec l'aide de son chien, il poursuivait le taureau sacré, le domptait, l'entraînait dans son antre. Là, il recevait du soleil, par la voix du corbeau, l'ordre de le tuer. Il en souffrait, car il l'aimait, ce fauve. Combien Alban comprenait cet amour, et que pour s'accomplir, il dut tuer. Mitra, malgré lui, tuait donc le taureau, mais voici que de son sang sortait le vin, de sa moelle, le blé et tous les végétaux, de son sperme, toutes les bêtes bonnes aux hommes. L'acte sanglant suscitait tous les biens de la terre. La corne taurine devenait le symbole de l'abondance. Et demain, à la fin des temps, Mitra viendra de nouveau sacrifier un taureau divin. Et du sacrifice ne sortira plus cette fois la vie terrestre, mais la résurrection des corps et des âmes, avec les châtiments et les félicités éternelles. Alban sentait remuer dans ses entrailles et dans son esprit la religion qui avait enivré les légions romaines et dont chaque ville de notre vallée du Rhône conserve une pierre.
Plus loin dans le roman, l'auteur n'omettra pas de souligner la profondeur des racines de la religion du taureau, le mazdéisme, mais aussi l'Inde védique, Babylone avec Anu, l'Égypte avec Horus, et la Crète et la Grèce avec Pasiphaé, la mère du Minotaure, à laquelle il consacrera d'ailleurs une pièce de théâtre, et de là Rome, Séville, toute une histoire que Monterland raconte jusqu'à ce que cette religion se heurte au christianisme. Il rappellera la position de quelques papes jetant l'anathème contre les toreros ou bien au contraire reconnaissant que les courses sont une école de courage. Il se complète à décrire les liens entre la tauromachie et certains rites religieux chrétiens tant il est pétri de toutes les cultures antiques. Au chapitre 7 a lieu l'affrontement entre le fauve et le jeune homme. La mise à mort ne se déroule pas comme prévu. L'intensité du roman atteint là son paroxysme. On ne dévoilera rien ici de ce final, laissant au lecteur des bestiaires son entière liberté d'appréciation. Enfin, ajoutons pour l'anecdote que Monterland reconnaît volontiers que le verbe « toréé » n'est pas admis par l'Académie. Du moins à son époque, il ne figure d'ailleurs ni dans la 7e ni dans la 8e édition du dictionnaire de l'Académie. Quant à la 9e, on ne le sait pas puisqu'elle est en cours de rédaction et que pour l'instant on n'en est qu'à la lettre R. Donc on ne sait pas si Toréé sera finalement admis ou pas par l'Académie. Mais lorsqu'il écrit « Moréa avait déjà Toréé », Monterland ajoute en note « Il n'y a aucun équivalent au verbe « toréar » travailler les taureaux selon les règles de la tauromachie, Monsieur Hérel, l'admirable traducteur, a créé le mot « tauré » dans « Arène sanglante ». Mais je me rallie à « tauréé » qui a l'avantage d'être un mot vivant, employé par la conversation et dans la presse par le peuple méridional. Les bestiaires de Monterland sont disponibles en format poche dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. Merci à Fernand Guillot qui a assuré les lectures de Monterland et de ses bestiaires.